acteurs du développement. Venez à la rencontre des personnalités marquantes de votre département. Une émission présentée par Véronique Boularan.
Bonjour à tous pour un nouveau numéro d'Acteurs du Développement. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir M. Mohamed Saadallah, qui est le président de l'APEAI Hadar. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, APEAI Hadar est aujourd'hui une structure qui occupe une place bien particulière sur le territoire du Grand Figeac, peut-être au-delà, vous allez nous le dire, et qui mène des actions en faveur de l'accompagnement du handicap et du maintien de l'autonomie ou du développement de l'autonomie. J'espère que j'ai résumé à peu près justement votre action, ça va ?
Oui, tout à fait. L'APEAI Hadar, c'est deux sigles qui étaient connus sur le Figeacois. Il y avait l'APEAI qui travaillait sur le champ, une association qui travaillait sur le champ du handicap, et l'Hadar qui travaillait, elle, c'est une association qui travaillait sur le champ de la perte d'autonomie, plus ciblée sur des personnes âgées, donc, et le grand âge avec cette perte d'autonomie. Et donc, décision a été prise il y a maintenant 4 ans de travailler sur un projet de fusion sur ces deux champs pour finalement, puisque globalement le travail qui a été fait par ces deux associations dans une grande partie était identique. On parle de travail sur l'autonomie des personnes qui ont un handicap, l'autonomie des personnes qui avec le grand âge perdaient un peu de cette autonomie. Donc c'est cette conjonction entre deux associations qui fait l'APEAI Hadar, qui est une association du médico-social, l'une des plus importantes du Grand Figeac.
D'accord.
Et même du département du Lot.
Parce que 4 ans pour arriver à une fusion, c'est un gros travail qui a dû être mené.
Bien sûr, parce que avant d'arriver à cette fusion qui est effective depuis le 1er janvier 2023...
D'accord.
Il a fallu rapprocher les uns et les autres, les stratégies des uns et des autres, les statuts des salariés des uns et des autres, travailler à concevoir un projet. Quand on se marie, on a un projet de vie ensemble.
D'accord.
Voilà, donc et c'était sous ce travail-là, avec des origines différentes. Le handicap était plus dans le champ, donc de la tête de réseau de l'UNAPI, tandis que le champ de l'autonomie, c'est l'UNA. Donc vous voyez, là aussi, il fallait rapprocher les statuts. Et c'est ce travail-là qui a fait qu'au au 1er janvier 2023, on a cette fusion entre ces deux associations.
Alors, déjà, première chose, je vous avoue, en vous écoutant, que je n'avais pas pris conscience qu'il y avait eu fusion depuis 2023. Pour moi, c'était quelque chose qui datait de cette année 2025, année où nous parlons aujourd'hui. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est vrai que quand on est... au quotidien, on ne pense pas automatiquement à faire le lien entre les deux, handicap et autonomie. Handicap, on connaît tous les aides de l'abeille, par exemple, avec restauration et blanchisserie. L'Hadar, c'est aussi quelque chose qui parle à chacun d'entre nous, puisque c'est l'accompagnement du grand âge à domicile. Et voilà, on n'a pas automatiquement conscience qu'on peut faire le lien. Qu'est-ce qui a motivé le fait de regrouper ces deux associations, de les faire s'associer, se fusionner?
Je pense que cette fusion, comme on dit toujours, l'union fait la force. Donc c'est surtout une volonté de réfléchir ensemble comment on peut travailler sur des situations complexe, une personne qui a un handicap, alors on n'est pas sur le champ de concurrence avec notamment l'Association des Paralysés de France, vous voyez.
Oui, bien sûr.
C'est comment on peut croiser nos regards sur un territoire identique pour pouvoir faire progresser les actions à l'égard de ces personnes vulnérables. Et puis, ce qui aussi motive, c'est que on manque de bénévoles.
Oui, d'accord, donc, puisqu'on est dans le domaine associatif,
là,
il ne faut pas l'oublier.
On anticipe toute cette évolution, tout ce changement dans le monde associatif, qui a actuellement beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes pour trouver des bénévoles, pour trouver des moyens financiers, on en parlera peut-être.
D'accord. Donc du coup, il y a eu fusion. Je pense qu'il y a aussi, comme vous venez de le dire d'une certaine façon, il s'agit de partager des compétences, des savoir-faire, des relations. Il s'agit de répondre à des enjeux d'un territoire. Vous nous dites que vous êtes certainement une des plus grosses structures du Grand Figeac, voire du département. Combien de salariés aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, la PUI Adar, c'est 330 bulletins de paye.
Ah oui, d'accord.
Donc on est quand même une entreprise, enfin une association entreprise importante. Hein. C'est pas une petite ou moyenne entreprise, c'est une entreprise, une ETI, ce qu'on appelle une entreprise de taille intermédiaire, qui gère aussi cette association, gère globalement 13 millions de moyens financiers qui nous sont alloués pour la gestion des 17 établissements et services administrés par la PUI Adar.
17
établissements et services.
Alors, on connaît les AT, on connaît les... Il y a deux foyers d'hébergement, si mes souvenirs sont bons. Il y a un accueil des temporaires. Il y a l'Adar. 17, j'ai du mal à les voir.
Alors... globalement, on connaît les génériques.
Ouais.
Hein, vous avez dit, c'est le foyer de vie, voilà. Par exemple, des Cèdres, donc foyer autiste ou psychique. Il y a la maison d'accueil temporaire, la maison du docteur Chausset, André Chausset.
Oui.
C'est un établissement à l'intérieur de ces établissements, fonctionne 2-3 services, vous voyez.
D'accord. Et chaque service a un peu son autonomie, son
unité. Il y a les hébergements arc-en-ciel. Oui, parce que chaque service est armé, entre guillemets, par du personnel dont le statut est différent.
D'accord.
On a aussi bien des assistantes sociales, des infirmières, on a
des personnes administratives, je présume.
Administratives, cuisiniers, on a un chauffeur, multitude de statuts, et bien des éducateurs spécialisés aussi.
Bien sûr.
Donc voilà, donc tout ça fait que ça compose des services. Alors, je n'énumère pas les sigles. Hein. Vous avez le SIAD, le SAVA, le SCVS, SAMSA,
en effet, on va peut-être
CSA,
pas...
Le PCPE, vous voyez, tout ça, c'est des services dans des structures globales, hein, qu'on a parlé donc, de l'ADAR, mais l'ADAR, il y a dans le bâtiment de l'ADAR qui est situé à côté de la gendarmerie, dans le
quartier de la gendarmerie,
au Carme, il y a une équipe spécialisée à Alzheimer, tout comme il y a aussi un accueil temporaire de jour, vous voyez.
D'accord.
C'est des services qui sont administrés.
Tout fait partie de l'association.
Tous.
Mais c'est vrai que peut-être chacun a un peu son domaine de compétences.
Oui.
Il y a peut-être aussi la volonté pour les structures d'hébergement d'avoir une recomposition d'une cellule, d'une structure un peu familiale et de proximité, je présume.
Oui, parce que bon... On n'oublie pas d'où on vient, ce sont quand même des associations de parents et de personnes en perte d'autonomie. Donc c'est ce côté militant de notre association, parce que ce sont des parents qui ont créé l'une et l'autre association, et on garde quand même cette valeur militante, que les parents jouent cette proximité par rapport aux établissements.
C'est un enjeu pour notre territoire d'avoir ce type de structure qui est de proximité et qui répond à des besoins de ce territoire et de nos familles. On est dans la démarche première de l'association.
D'avoir des enfants qui présentent un handicap quel qu'il soit, donc pour les familles, c'est d'un confort d'avoir sur son territoire des structures d'accueil. Certes, le nombre de places n'est pas si important que cela, mais bon, elles existent et on peut accompagner, on peut prendre date pour pouvoir demain accueillir leurs enfants. Et puis pour les personnes âgées, c'est pareil. On est quand même dans un département, le Lot, qui prend de plus en plus de personnes âgées.
Oui, c'est un des plus âgés de France, plus vieillissant.
Qui est l'un des deux plus âgés de notre pays. Et il faut que l'on travaille sur l'offre de services quand ces personnes âgées, enfin ces seniors, arrivent au quatrième âge, où l'autonomie se dégrade. Qu'est-ce qu'on offre comme service ? À un moment où, vous voyez, on critique beaucoup les EHPAD.
Elles sont remises en cause, alors,
Elles sont remises en cause, surtout depuis la période du Covid. Et donc, il faut qu'on réfléchisse sur comment, demain, on puisse adapter une offre de service vis-à-vis de ces personnes-là. Ça ne sera peut-être pas l'EHPAD. Nous réfléchissons d'ailleurs autre chose, puisque nous n'aurons pas des moyens dans notre pays en mesure de pouvoir créer des infrastructures pour faire face à ce tsunami du papy-boom qui va être dans quelques années le grand âge, boom.
Voilà, donc,
ce qu'on appelle le virage domiciliaire. C'est comment offrir des services en maintenant le plus longtemps possible les personnes âgées à leur domicile.
D'accord. Merci pour ce point.
Et permettez-moi
de vous ajouter,
et c'est la force de l'APU ADAR, cette fusion, c'est qu'il n'y a aucun dispositif concernant les personnes handicapées vieillissantes.
Oui.
Et là, pour le coup, nous traitons ces personnes handicapées qui, arrivées à un âge vers le grand âge, elles connaissent aussi les mêmes problèmes que la personne normale, passez-moi cette expression. Et donc, voilà, donc on travaille sur ce sujet-là et c'est notre grande force à l'APU ADAR.
D'accord. Chers auditeurs, on va faire une pause puisque cette émission sera en deux parties et donc on va poursuivre l'entretien dans un deuxième temps avec M. Mohamed Saadallah. Merci.
Acteurs du développement. Venez à la rencontre des personnalités marquantes de votre département. Une émission qui vous a été présentée par Véronique Boularan.